RFI minuit 30 à Paris, 22h30 en temps universel.
Afrique Soir.
Afrique Soir avec Zéphirin Quadio, bonsoir.
Bonsoir Christophe Paget, bonsoir à toutes et à tous. À la une de cette demi-heure d'actualité africaine en Côte d'Ivoire, à 5 mois de la présidentielle, 4 figures de l'opposition définitivement exclues de la course. Parmi elles, Tidiane Thiam, président du PDCI, dont la nationalité ivoirienne a été remise en cause au moment de son inscription sur la liste électorale. Nous reparlerons également de l'attaque meurtrière contre le camp militaire de Bouli Kessi dimanche dans le centre du Mali. Bilan, plus de 100 soldats maliens tués. L'armée avait reconnu l'attaque sans donner de bilan. Une stratégie du silence assumée, mais également critiquée. Et puis des dizaines de recommandations pour la refondation de la démocratie au Sénégal. C'est le bilan d'une semaine de débats sur le système politique du pays. Les conclusions de ce dialogue national seront remises au président Bassirou Diomaye Faye. Nous irons également au Soudan où les condamnations se multiplient après l'attaque d'un convoi humanitaire destiné à la ville d'El Fasher dans la province du Darfour Nord. L'ONU, l'Union africaine et les États-Unis et plusieurs autres pays appellent au respect du droit humanitaire. En Côte d'Ivoire, l'opposant Tidiane Thiam ne pourra donc pas être candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Le président du PDCI ne figure pas sur la liste électorale définitive publiée en ligne la nuit dernière par la commission électorale indépendante. Tidiane Thiam, qui a vivement protesté après l'officialisation de sa radiation, ainsi que son parti, Benoît Almeras.
Mon élimination de la liste électorale constitue un exemple de la dérive de la Côte d'Ivoire vers une absence totale de démocratie. C'est ainsi que Tidiane Thiam a réagi dans une déclaration mercredi matin. Ces attaques contre la démocratie doivent cesser. Le gouvernement doit garantir des élections libres, équitables et inclusives, poursuit l'opposant. Dans la foulée, les 6 élus PDCI au Sénat ont boycotté une plénière pour dénoncer, je cite, un climat politique pesant et incertain. Le parti d'opposition annonce également l'organisation de manifestations. Le PDCI dit tenir les dirigeants du RHDP responsables de la situation pour avoir ignoré les appels au dialogue politique. De son côté, le parti au pouvoir, le RHDP, rejette ses critiques. Pour ses porte-paroles, ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui a demandé le retrait de Thiam et Gbagbo. Des porte-paroles qui rajoutent que les partis d'opposition ne sont pas radiés de la liste électorale. Traduction, à eux de trouver des plans B en vue de la présidentielle. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
Au Mali, plus de 100 militaires ont été tués dans l'attaque du camp militaire de Bouli Kessi dans le centre du pays dimanche. Chiffre revendiqué par le JNIM qui a également fait 22 prisonniers retenus en otage depuis. Ces informations diffusées par les organes de propagande du groupe djihadiste lié à Al-Qaïda ont été confirmées à RFI par plusieurs sources locales, notamment sécuritaires maliennes. Devant l'ampleur de la tragédie, l'armée avait reconnu effectivement dimanche l'attaque de Bouli Kessi et la mort de soldats, mais sans donner de bilan. Une stratégie du silence assumée, mais également critiquée, David Baché.
Pour les attaques de Bouli Kessi dimanche et de Tombouctou lundi, l'armée n'a pas communiqué le nombre des soldats tombés au combat. Quant à l'attaque du camp de Djoura le 23 mai, elle n'a jamais été reconnue. Officiellement, elle n'existe pas. À elle trois seules, ces attaques ont fait environ 150 morts. Cette doctrine du silence est assumée. Des responsables militaires ou politiques ont déjà expliqué qu'il s'agissait de ne pas faire le jeu de l'ennemi et de ne pas saper le moral des troupes. Dans la population, certains estiment que les citoyens n'ont effectivement pas à être informés de ces réalités sensibles du terrain, que c'est l'affaire de l'État et de l'armée à l'œuvre pour la sécurité et la souveraineté nationale. D'autres jugent en revanche que le régime en place cache la vérité sur la situation sécuritaire pour se maintenir au pouvoir et réclament plus de transparence. Ces Maliens souhaiteraient également que les militaires tombés au champ d'honneur aient droit à des funérailles officielles et que les familles n'aient pas à attendre parfois plusieurs semaines avant d'apprendre la mort d'un fils ou d'un mari. Des demandes qui s'expriment moins ouvertement. Ceux qui l'osent sont traités d'apatrides ou de mauvais patriotes par les soutiens des militaires au pouvoir.
Précision signée David Baché. Notez par ailleurs que le JNIM revendique une nouvelle attaque ce mercredi à Mamari Bougou, localité proche de Bamako. Le groupe djihadiste affirme y avoir ciblé un rassemblement de l'armée malienne et de ses alliés russes avec un engin explosif sur un terrain d'entraînement. Une source sécuritaire malienne a confirmé cette attaque à RFI sans fournir davantage de détails à ce stade. Sollicité par RFI, l'armée malienne n'a pas donné suite. Au Sénégal, le dialogue national sur le système politique est arrivé à son terme. Les partis, le pouvoir, l'opposition et les membres de la société civile ont débattu pendant une semaine des mesures à prendre pour consolider la démocratie, le déroulement des élections, le financement des partis politiques, mais aussi les droits et libertés. Quelques 800 personnes ont participé à ces débats et le consensus n'a pas toujours été facile à trouver. À Dakar, les explications de Léa-Lisa Westerhoff.
191 partis politiques invités, quelques 800 participants. Pour les représentants de la majorité, ce dialogue pour consolider la démocratie a permis de dégager plusieurs recommandations importantes. Ndem Dieng était observateur dans la commission sur les réformes institutionnelles. Il cite en exemple...
De passer d'un conseil constitutionnel à une cour constitutionnelle, l'ensemble des acteurs politiques et de la société civile s'accordent sur la nécessité d'avoir une haute autorité pour la gestion des élections, pour une élection transparente, indépendante et inclusive.
Plus indépendance de la commission électorale et la création d'une cour constitutionnelle dont les juges ne seraient plus nommés par le chef de l'État. Les participants ont par contre échoué à se mettre d'accord sur l'intérêt de réduire le nombre de partis politiques au Sénégal. Mais pour le fondateur du mouvement citoyen Yann Amar, Fadel Baro, ce n'est pas une mauvaise nouvelle.
Même 1000 partis politiques ne posent pas problème si l'État arrive à rationaliser dans les modalités pratiques l'accès à la candidature. C'est ça qui est mis en cause. Si on applique déjà la loi de manière rigoureuse, on verra qu'il y a déjà une diminution du nombre de partis.
Déception en revanche du côté des représentants de la jeunesse. L'inscription automatique des plus de 18 ans au fichier électoral n'a pas été retenue. Une erreur pour Madaour Silla dans un pays où 75% de la population a moins de 35 ans.
Ils disent qu'il est opportun d'aviser le citoyen de son droit d'être inscrit sur le fichier électoral. Alors nous, on pensons qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui manifestent la volonté d'être sur le fichier électoral, mais qui subissent des entraves procédurales, du délai très court qui est prévu pour l'inscription.
Ces recommandations doivent désormais être soumises au chef de l'État qui a promis d'appliquer l'ensemble des points qui font consensus. Léa-Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Et je rappelle que ces discussions étaient organisées autour de plusieurs commissions, la démocratie, les libertés et les droits humains, les réformes institutionnelles et celles portant sur le processus électoral. Mundiaye Cissé, directeur de l'ONG 3D, a participé aux discussions. Il fait le point sur les principales avancées au micro de Nicolas Sûr.
On a un consensus large sur la nécessité de numériser le parrainage de sorte qu'il n'y ait plus de doublons externes, objet de beaucoup de rejets. Parce que le parrainage, est maintenant, c'est au niveau de toutes les élections, que ce soit la présidentielle, que ce soit également les législatives. L'autre pas important, c'est le fait de dessaisir le Conseil constitutionnel du parrainage. Le Conseil constitutionnel s'occupait du parrainage, était à la fois donc juge et parti, parce que le Conseil constitutionnel est l'organe où bien les acteurs politiques, les candidats pouvaient faire des recours. Aujourd'hui, il y a un consensus pour mettre en place un organe qui va s'occuper du parrainage, du contrôle et de la vérification du parrainage, et en cas de désaccord, que le candidat puisse faire recours au niveau du Conseil constitutionnel.
A contrario, parmi les points qui n'ont pas fait consensus, lequel regrettez-vous?
Ce que je regrette, c'est la question sur la rationalisation des partis politiques. Je pense qu'on n'a pas eu... On est d'accord sur le principe, mais on n'est pas d'accord sur les modalités. La question des cumuls également. On a eu un accord sur l'interdiction du cumul chef d'État, chef de parti, et du cumul ministre et maire ou président de conseil départemental. Par contre, pour les autres cumuls comme DG et maire et autres, on n'a pas eu de consensus. Et donc, il y a la question aussi sur les libertés publiques. Il n'y a pas eu d'accord sur les articles 255 et suivants qui concernent les délits d'offense au chef de l'État, etc. Donc, on n'a pas pu avoir un accord. On a renvoyé ça aux conclusions des assises de la justice.
Aujourd'hui, ce sont des recommandations qui sont adoptées. L'an dernier, un dialogue national qui avait été organisé portait sur la justice et aucune des recommandations prises à l'issue de ce dialogue n'a encore été mise en œuvre. Est-ce que ça n'est pas un problème?
Oui, c'est un problème parce que ça fait un an que les conclusions des assises de la justice sont déposées auprès du président de la République. On nous a annoncé le projet de loi mettant en place la Cour constitutionnelle à la place du Conseil constitutionnel. On nous a annoncé un projet de loi instituant un juge des libertés et de la détention. Ce serait un pas important. On nous a annoncé également un projet de loi sur l'accès à l'information et un projet de loi sur la protection des lanceurs d'alerte. Tout ça, c'était les conclusions des assises de la justice. Et un an, je pense que ça suffit. C'est un délai raisonnable pour mettre en œuvre et appliquer les conclusions de concertation. Donc aujourd'hui, temps de passer aux actes.
Mondial. Cissé, directeur de l'ONG 3D, répondait aux questions de Nicolas Sûr. Une semaine après les inondations meurtrières dans le centre nord du Nigeria, les sinistrés commencent à peine à recevoir des provisions, de l'eau potable et du matériel de première nécessité. Jeudi dernier, la ville de Mokwa, dans l'état du Niger, a été frappée par une crue éclair d'une ampleur sans précédent. Bilan au moins 200 morts, plus de 250 maisons détruites. Dans un communiqué publié mardi, le ministre nigérian de la gestion des ressources en eau a expliqué que ces inondations, je cite, résultent des conditions météorologiques extrêmes provoquées par le changement climatique. En République démocratique du Congo, les négociations autour d'un partenariat stratégique avec les États-Unis dans le secteur minier suscitent un vif débat. Kinshasa espère conclure rapidement ce deal dans l'espoir qu'il permette une implication accrue de Washington dans la recherche de la paix dans l'est du pays. Il y a trois jours, RFI révélait que le président Félix Tshisekedi a mis en place une cellule stratégique chargée de suivre les discussions et de préparer la mise en œuvre de cet accord. Mais à Washington, cinq membres du Congrès demandent des clarifications. Les précisions de Patient Ligodi.
Même aux États-Unis, les doutes commencent à apparaître. Cinq membres du Congrès ont écrit à Massad Boulos, le conseiller spécial pour l'Afrique à la Maison-Blanche. Dans leur lettre, ils posent une question simple. Que contiennent exactement les discussions? Ces élus s'inquiètent, disent-ils, du manque de transparence sur les conditions d'accès aux ressources congolaises, mais aussi sur la manière dont ces richesses seront gérées. Ils préviennent, sans garantie claire, ce partenariat pourrait aggraver les conflits et la corruption au lieu d'apporter la paix et le développement. En RDC aussi, les interrogations se multiplient. Qui négocie au nom du pays? Quelles sont les offres faites aux Américains et à quelles conditions? Jean-Pierre Okenda est chercheur sur la gouvernance minière.
Il faut qu'on puisse avoir le prétention du gouvernement en termes d'offres. Quelles sont les principales articulations du gouvernement vis-à-vis des Américains concernant l'exploitation de ressources naturelles?
Pour lui, il faut surtout éviter de répéter les horreurs du passé. Il pense notamment au fameux contrat chinois de 2008, signé sous Joseph Kabila, minerai contre infrastructure.
À fin de compte, le Congo a perdu en fait avec les Chinois. On n'a pas eu d'infrastructure donc aujourd'hui. Et deuxième chose qu'on a perdu, c'est que l'accord était extrêmement et de façon originelle très très déséquilibré.
Enfin, les élus américains demandent un briefing officiel sur les négociations en cours, mais aussi sur la manière dont les questions humanitaires seront prises en compte.
En précision signée Patient Ligodi, puis en RDC toujours, la formation politique de Joseph Kabila visée par des sanctions du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le CESAC suspend pour 90 jours toutes les activités médiatiques du PPRD. Cette interdiction concerne également l'ensemble des médias du pays, qu'ils soient publics ou privés, ainsi que les plateformes numériques et les réseaux sociaux. Il est désormais interdit de diffuser toute communication de Joseph Kabila et des mesures restrictives ont été décidées contre des prises de parole, des cadres de son parti. Certains membres du PPRD parlent d'ailleurs de censure. L'organisation Reporters sans frontières s'inquiète-t-elle d'un précédent dangereux pour la liberté d'expression et le pluralisme politique en RDC? C'est notamment ce que nous explique Sadibou Marong, directeur du bureau Afrique de Reporters sans frontières.
Nous estimons fondamentalement que c'est une décision qui enfreint les standards en matière d'équilibre de l'information. Nous sommes également préoccupés par cette tendance du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication en RDC à interdire de manière assez discrétionnaire. On a vu par exemple que depuis avril 2024 pratiquement, le CESAC avait commencé à interdire aux médias de diffuser des informations en rapport avec la situation à l'Est sans se référer aux sources officielles. Et cela a continué jusqu'en 2025. Aussi, en janvier, le Conseil avait menacé des suspensions des médias internationaux. Et ce n'est pas son rôle un peu d'interdire de manière tout azimut, sans même développer un peu les concertations nécessaires. Nous voyons le développement d'une censure, et cette censure-là est une censure administrative parce que le Conseil peut avoir le droit un peu de fermer des médias, de suspendre tel ou tel média, et cela tant que c'est fait de manière très disproportionnée, cela nous pose problème du point de vue de l'approche.
Réaction du directeur du bureau Afrique de Reporters sans frontières. Et puis au Congo Brazzaville voisin, l'avocat des quelques 300 prévenus détenus dans les locaux de la CNSS Texaco La Tiémé appelle l'État à prendre ses responsabilités. Aucune communication officielle depuis celle du procureur de la République le 23 mai dernier, déclarant que ce jour-là, aux environs de 4 heures du matin, une tentative d'évasion s'est soldée par la mort de 6 détenus. Les corps sont toujours à la morgue. Aucune aucune information judiciaire n'a été annoncée pour faire la lumière sur les circonstances de la mort de ces jeunes. Or, certains corps portent, selon Maître Steve Bagne, des traces de balles.
Les parents ont perdu leurs enfants et l'État ne parle de rien. Les enfants sont morts dans les geôles de l'État, dans les cellules, les locaux de l'État congolais. Ils jouissent de la présomption d'innocence. On leur colle une étiquette qu'ils seraient des délinquants, des braqueurs et autres. Mais non, ils jouissent d'une présomption d'innocence. Ils sont décédés dans les locaux de l'État congolais. L'État devait prendre ses responsabilités. Et il y a aujourd'hui, les parents organisent la veillée. Les veillées, à l'heure, ils sont abandonnés à leur triste sort. Certains, on a vu les hématomes, ils ont reçu des balles. Donc l'État doit reprendre parce qu'il y a eu des gendarmes qui étaient de garde ce jour-là, les gendarmes, les policiers, et on doit les présenter devant le procureur pour qu'ils nous expliquent qu'est-ce qui s'est réellement passé. Ici, on nous parle d'une évasion, mais il y a certains enfants qui ont trouvé la mort dans la cellule. On doit clarifier cette situation, nous devons tirer au clair cela.
Propos recueillis par Milly Tulé. La Banque mondiale relance ses prêts à l'Ouganda. Ils avaient été gelés en 2023 après l'adoption d'une des lois anti-LGBT+, les plus sévères au monde. Après la promulgation du texte, la Banque mondiale avait estimé que des mesures supplémentaires étaient nécessaires pour garantir que les projets qu'elle finance soient mis en œuvre conformément à ces normes d'inclusion et de non-discrimination. L'institution financière estime désormais satisfaisantes les mesures d'atténuation mises en œuvre ces derniers mois dans tous les projets en cours en Ouganda. L'Afrique doit augmenter sa production de vaccins pour combattre les maladies. Déclaration du président angolais ce mercredi lors de discussions d'urgence portant sur une épidémie de choléra qui a fait plus de 700 morts cette année, rien qu'en Angola. Le président João Lourenço, également président de l'Union africaine, s'exprimait lors d'une vidéoconférence avec d'autres dirigeants africains portant sur l'épidémie de choléra qui touche plusieurs pays. Pour rappel, plus de 90% des vaccins, médicaments, tests médicaux et autres fournitures sanitaires essentielles utilisées sur le continent sont importés selon un rapport du Centre africain de contrôle de la prévention des maladies, rapport publié en avril dernier. Au moins 14 personnes tuées ce mercredi dans un bombardement d'un camp de déplacés au Darfour dans l'ouest du Soudan. Attaque à l'artillerie lourde attribuée aux forces de soutien rapide, c'est ce qu'affirme un groupe de secouristes. On apprend également qu'un avion cargo a été bombardé ce mercredi, peu après son atterrissage à Niala, capitale du Darfour Sud, au cœur de violents combats entre l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires de son rival, le général Emeti. Toujours au Soudan, vague de réaction après l'attaque d'un convoi humanitaire destiné à la ville d'El Fasher, dans la province du Darfour Nord. Lundi soir, un convoi d'une quinzaine de camions du Programme alimentaire mondial et de l'UNICEF transportant de l'aide alimentaire et sanitaire a été bombardé à 80 km de sa destination finale. 5 travailleurs humanitaires sont morts, une partie de la cargaison a été détruite. Le secrétaire général de l'ONU a condamné l'attaque et demandé l'ouverture immédiate d'une enquête. Depuis, Alexandra Brangeon, les condamnations se multiplient.
Une attaque inacceptable a réagi l'UNICEF, dont plusieurs camions ont été endommagés. Ils transportaient des produits nutritionnels pour des enfants et des familles d'El Fasher, précise l'Agence des Nations Unies pour l'Enfance. Le convoi venait de traverser tout le pays, plus de 1800 km, quand il a été pris pour cible à 80 km de sa destination finale, déplore Lenny Kinsley, porte-parole du Programme alimentaire mondial.
Il s'agissait d'aide vitale en route pour El Fasher, assez pour subvenir aux besoins de 76 000 personnes coincées dans cette ville. C'est une catastrophe. Les deux parties connaissaient la nature et la localisation de ce convoi. Il faut qu'ils respectent le droit humanitaire international et qu'ils s'engagent à protéger ces convois.
Dans la ville d'El Fasher, assiégée par les paramilitaires depuis 2 ans, c'est également la consternation et la colère, comme en témoigne cet habitant.
Quand j'ai entendu qu'un convoi humanitaire avait été attaqué, cela m'a mis tellement en colère parce que cette aide aurait pu éviter à des milliers de personnes de mourir de faim. La situation est vraiment critique. Il n'y a presque rien sur les marchés et le peu qu'il y a est hors de prix. Nous ne mangeons qu'une fois par jour, la plupart du temps, du sorgho avec un peu de sel et d'huile.
Cet incident s'inscrit dans une série d'attaques répétées contre les opérations humanitaires, dont le récent bombardement la semaine dernière des locaux du PAM à El Fasher.
Explication signée Alexandra Brangeon. Du sport à présent et la première étape du Tour cycliste du Cameroun qui s'est déroulée ce mercredi entre Maroua Mora et Marois. Une étape de 127 km remportée par le Camerounais Boris Tientje qui roule sous le maillot de l'équipe nationale. Le podium est complété par l'Ivoirien Cissé Issiaka à 58 secondes et par Clovis Kamsonga-Bosolo de SNH Vélo Club du Cameroun. Boris Tientje heureux d'endosser le premier maillot jaune de la 21e édition du Tour du Cameroun au micro de Joël Wadem.
Changement de joueur comme tout champion. Donc, j'étais très très content, très très ému. À Moura, on était un peloton de moins de 14 coureurs. Après, il y a une jonction derrière de Cissé, Issiaka, avec les autres Camerounais à l'intérieur. Donc, un groupe de 5 coureurs sont venus entre nous. On a commencé à tourner. Il y en a 5 qui ne passaient pas au relais. Bon, j'ai décidé pourquoi pas essayer de tenter ma chance à 25 km de l'arrivée. C'est ça que j'ai fait. Je suis allé puiser au fond de moi. La foule m'a transmis un peu leur énergie à ce moment. J'ai dit non, je ne dois pas le décevoir. Les 5 derniers kilomètres, j'ai vraiment cru en moi que je vais porter ce mot aujourd'hui. Je ne connais pas vraiment le plan de demain, mais ce qui est sûr, ce serait basé pour pouvoir conserver le maillot jaune.
Voilà la satisfaction du Camerounais Boris Tientje. Demain, deuxième étape, 110 km entre Marois et Figuil. Et on ouvre notre dossier économie consacré ce soir à la crise de l'élevage au Maroc. Une activité qui fait la une de l'actualité ces derniers mois. Annulation du sacrifice de l'Aïd, explosion du prix de la viande rouge. En l'espace de 9 ans, sous l'effet notamment de la sécheresse, le cheptel s'est effondré, perdant un tiers de ses effectifs. Les Marocains s'interrogent donc sur l'origine de la crise qui frappe la filière et tentent de trouver des solutions. C'est un dossier signé Mathias Reynal.
Ces dernières années, les éleveurs marocains ont dû se rabattre sur les aliments pour bétail importés. Le royaume ne produisait plus suffisamment de fourrage à cause du stress hydrique, mais pas seulement.
Il y a une autre chose qui a posé vraiment un problème, c'était surtout l'orientation vers des cultures comme l'olivier par exemple ou d'autres cultures arboricoles qui demandent beaucoup d'eau, au détriment des cultures, on va dire, classiques du Maroc, les céréales, qui sont des cultures qui s'adaptent aux conditions locales. Ça pose vraiment un vrai problème quant à l'autonomie fourragère pour nos élevages marocains.
Soufiane El Ayadi est enseignant-chercheur au département des productions animales à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Paysan davantage dépendant aux importations et explosion des prix due à l'instabilité géopolitique, le système de production marocain a vacillé.
Il faut s'orienter vers des cultures qui s'adaptent à la sécheresse. Il faut penser à ça, à développer des alternatives. Donc on ne peut pas dire on va arrêter l'élevage intensif. Ce n'est pas possible, mais il faut quand même adapter les ressources qui sont essentielles pour le développement et la productivité de ces élevages.
Des solutions existent, comme le sorgho. Elles sont actuellement à l'étude au Maroc, selon Soufiane El Ayadi, qui mentionne une autre piste.
Il faut revenir aux races locales qui sont très résistantes aux conditions du Maroc, la sécheresse, un contexte très impacté par les changements climatiques.
Pour produire plus, le Maroc est passé à des races venues d'Europe. Il a perdu une partie de ses ressources génétiques locales. C'est particulièrement vrai pour les bovins. Le docteur Ahmed Aïd Taleb est le directeur de la Fédération marocaine des éleveurs de la race, Welmes Zaher.
Malheureusement, c'est la seule race marocaine qui existe encore. Les autres races ont disparu. Donc, c'est pour ça que le ministère de l'Agriculture a mis en place un programme pour sauvegarder le développement de cette race en collaboration avec la Fédération.
Objectif de ce programme, faire passer les effectifs de 5000 à 10000 têtes d'ici 2030.
C'est une race très rustique, très résistante. C'est-à-dire pendant la sécheresse, il se rétrécit comme un accordéon. Et dès qu'il y a de la pluie, un peu d'herbe et tout ça, donc il gonfle, il devient productif.
Le gouvernement vient d'annoncer un vaste programme pour reconstituer le cheptel marocain, près de 600 millions d'euros sur un peu moins de 2 ans, principalement sous forme d'aide directe aux éleveurs. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
Il est 23h54 à Casablanca. L'heure de la musique dans Afrique Soir avec aujourd'hui le groupe sud-africain Mosquito, un groupe apparu à la fin des années 90, autant inspiré par le Kwaito local que par les poids lourds de l'époque comme Snoop Dogg ou encore Tupac. Leur seul unique album, Idolar, vient d'être réédité. Pierre Vallée nous propose de l'écouter.
Au début des années 2000, deux danseurs de pansula, une danse typique d'Afrique du Sud, se font remarquer dans le township qui relie Johannesburg à Pretoria. Maloubi Chadoradebe et Zwelake Malemon Mtchali dansent avec une énergie communicative qui attire les foules. Cependant, leur amour pour la musique les conduit à former un groupe de Kwaito. Ils appellent deux de leurs amis, Patrick Louané et Menzi Dlodlo, et donnent naissance au groupe Mosquito. Ils ont peu de moyens, mais beaucoup de créativité. Techniquement, ils rappent sur des instrumentaux qu'ils jouent sur des lecteurs de cassettes. Leur recette est simple, mixer le Kwaito, un style purement sud-africain fait de rythmes anciens sur de la house au tempo ralenti, et rapper dans le style des vedettes américaines du moment, Tupac, R. Kelly ou Snoop Doggy Dogg. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça marche. Ils enregistrent leur premier disque, Idolar, sur le label Tami Music et remportent un succès incontestable. L'album se vend à plus de 25 000 exemplaires, ce qui en fait un disque d'or et les propulse au rang de stars dans toute la région, du Botswana au Swaziland en passant par la Namibie et le Zimbabwe. L'album vient d'être réédité et si l'on peut écouter ce disque aujourd'hui, c'est grâce à l'ethnomusicologue américain Brian Shimkovitz qui a eu une révélation lorsqu'il est parti à Accra étudier le hip-hop ghanéen. Sur place, il accumule les découvertes, les rencontres et les cassettes audio. De retour chez lui et obsédé par ce qu'il a découvert, il prend la décision d'en faire la promotion et crée le blog Awesome Tapes from Africa. Des cassettes formidables venues d'Afrique.
Eh bien, c'est en Afrique du Sud que s'achève donc cette édition africaine réalisée par Jonathan Brady, rédacteur en chef Alexis Guilleux, assisté de Yasmine Boulan. Merci à tous les trois et surtout merci à vous de l'avoir suivi. L'info continue sur Radio France Internationale avec à suivre dans une minute un nouveau journal présenté par Mathis Slimano.
De voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur le thème de demain.
Comment les femmes peuvent développer l'économie et le niveau de vie des habitants alors qu'elles sont partout minoritaires? Dialogue avec deux femmes inspirées par la persévérance des entrepreneuses.
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.
Priorité santé.
Caroline Paré vous accueille tous les jours et reçoit des spécialistes à votre écoute. Demain.
Seconde émission à Abuja, au Nigeria, à l'occasion du 5e congrès mondial sur la drépanocytose. Coup de projecteur sur la lutte contre cette maladie génétique en République démocratique du Congo. Véritable problème de santé publique pour les enfants congolais.
Priorité santé.
Avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi, à partir de 9h10 TU, sur RFI.